Camille Lemonnier, La mort de la mort. C'est une vieille histoire déjà, mais les gens de mon village vous racontent encore, en lampant un broc, comment un jour de mardi gras, la mort les visita. D'où elle leur était venue, personne jamais n'en sut rien. C'était la vesprée, dans l'entre-chien et loup, qu'on avait signalé sur la place devant l'église. Elle était arrivée par la grande route, sûrement. Cette route formait l'unique rue du village. Mais ni le maire, ni le garde forestier, ni le barbacole, dont les maisons jouxtent les champs à l'orée de l'agglomération, ne l'avaient aperçu passer devant leur ferme. Cependant, aucun doute ne pouvait subsister. Pour gagner la place, elle avait dû enfiler la chaussée. Et plus tard seulement, un pauvre vieux qui habitait un bureau de basse campagne révéla qu'elle était avidée son il était avidé son bureau et qu'il avait remarqué une grande forme noire traversant à longues enjambées la garrigue. Le moutier des Capucins n'était distant que d'une petite heure. Il avait cru qu'un des prêtres avait pris ce chemin pour se rendre à une cure voisine. Alors on ne douta plus dès lors que ce ne fût la mort qu'il avait vue pèlerinant par la lande. Et quand il mourut quelques mois après, il n'eut qu'une voix pour affirmer que la mort lui avait jeté un mauvais regard. Il n'en parut pas moins extraordinaire qu'elle eût pu, sans éveiller l'attention, pénétrer jusqu'au cœur du village. Mais n'est-ce pas toujours ainsi que suscite la mort, soit qu'elle tarde ou se précipite, ce n'est que quand elle vous a touché du doigt qu'on la ressent présente, et alors il est trop tard pour s'enquérir de la route qu'elle a suivie. En cet après-midi de mardi gras, longeant le mur du cimetière qui fait retour sur la place, se manifesta donc la mort. Oh, une vraie mort, telle qu'elle est peinte sur un très vieux tableau de l'église. Une longue goule flottante autour de l'enchaînement de ses reins, avec une corde à nœud pour ceinture, une corde comme celle qui sert à couper pour le glas des trépassés, et une profonde cagoule trouée à la place des yeux où lui capuchonnait la tête. Le maire Solot, justement, fumait sa pipe sur le pas de sa porte. Ce fut lui qui l'aperçut le premier. Tout le monde au village savait la taciturnité de ce petit homme qui passait, pour ne pas dire, sans parole en une année. Mais son saisissement lui délia la langue. Il se rejeta dans sa boutique et, interpellant sa femme, « Vieille, dit-il, oh, je viens de voir une chose extraordinaire. » C'est la propre mort du tableau de l'église qui est descendue sur la place. Elle avait son capuce rabattu sur les yeux, mais par les trous, elle regardait les fenêtres des maisons. La bonne Anne se faufila derrière son comptoir, et du bout des doigts, elle écarta une paire de bas de femme qui pendillait à une corde, et aperçut en effet la mort faisant les 100 pas devant le mur du cimetière dans un reste de jour. « Oh Dieu, Seigneur !» s'écria-t-elle. « Il y a un malheur sur le village. Oh, sûrement avant ce soir, on apprendra que la mort est allée frapper à la porte des maisons. » En ce moment précis, une petite troupe de masques déboucha d'une sente qui, entre deux cordes fermes, menait aux railleries. Ils s'étaient affublés des frocs extraordinaires pour n'être pas reconnus. L'un d'eux s'était collé au visage un carton hilar et poupin et hachait sous des pendaillons maculés de bouse. Un autre, jambé le tuyau de poêle, s'était casqué en guise de morion d'une marmite éculée qu'il frappait avec des pincettes. Il y avait aussi un chien-lit portant sous son bras une seringue à injecter les vaches malades de la tympanite, un garde française qui s'était fait une perruque avec de l'écouaille et avait tiré ses bottes par-dessus des caleçons pisseux, un arlequin ficelé dans les quadratures d'une toile à matelas. Le garde française marchait devant et raclait d'un sénile crin-crin dont les cordes crachotaient une pauvre petite toux de notes époumonées. Trois jeunes pitards les suivaient, la roupie au nez, les mains dans les poches, gravement comme à la procession. La troupe, à la vue de cette grande figure noire, se mit à faire des morions en rigondant et en s'en battant des entrechats. Oh, ils avaient certainement bu un coup de trop pour traiter avec tant d'irrévérence la mort. Mais ce qui ne s'était jamais vu avant ce moment, ce fut la mort au milieu de ces masques sordide, exécutant un cavalier seul. Oh, la chose arriva comme je vous le dis. Les gens de la place, attirés par les renaclements du crin-crin, s'étaient mis aux fenêtres et furent tous témoins de ce fait insolite. Après cela, la mort aurait pu rentrer au cimetière. Mais en carnaval, la mort elle-même a bien le droit de se déridir un peu. Et on l'aperçut qui s'emparait du violon du garde française, et avec le geste de ses bras démesurés, comme s'il en sciait la vie, s'enrageait à scier les musiques de ce sabot rural. Jamais pochette de ménétrier ne glissa avec plus d'endiablement. C'était à croire que la main qui tourmentait ce vieux bois coriace avait en manière de musique et de muscles un appareil d'acier. Les boyaux de chat, le rabotement de l'archet, se tordaient comme des peignures dans la flamme. La mascarade, à présent, suivait par la chaussée cette vieille gueuse de la mort qui, son violon dans les côtes, marquait le pas du hochement de sa caboche encagoulée. Mais voilà que tout à coup, le chien-lit s'assied sur un merger au bord d'une haie, les mains à son ventre, en gémir la colique. Le garde française, un peu plus loin, s'abat à son tour, vert comme un soir d'avril. Et la mort, du fond du capus, émet un rire caverneux et en gabillant, racle, jusqu'à l'en crever. Son fermail infernal vous tient à danser. Alors les autres, sous l'enroulement des dessus et des plis de la cagoule, se persuadent de voir le gigotement d'un squelette. Ils reconnaissent la mort. Et à poil rue, font sur elle en gueulant « À mort, la mort !»« À l'aide !» brame une autre pauvre voix sous la cagoule. Mais les abattis cognent le plus fort. Le visage au bruit de la rixe, le village descend à la rescousse, et daube sur la camarde qui se défend à coups de violon. D'ailleurs, la nouvelle de l'arrivée de la mort s'est répandue. Le fossoyeur, rapidement, a fait le tour du cimetière, mais les fosses sont closes. Aucune ne s'est entrebâillée pour laisser sortir le mort. Le sacristain, de son côté, a pris ses clés et est allé ouvrir la porte de l'église. Et le tableau est toujours à son clou, avec sa grande mort aux balances judiciaires. Et pourtant, c'était bien la mort qu'on tenait là, à moins qu'un sacrilège imposteur n'en eût usurpé les traits. Alors ce fut un pourchat. On traqua jusqu'aux confins du village le spectre à la houle noire. Mais, comme hormis les masques, personne n'avait osé porter la main sur lui, on se munit de bâtons et de fourches qu'on lui enfonçait dans les côtes. Et le soir tomba sur ce massacre. Et savez-vous ce qu'il en résulta? Et le lendemain, on trouva la mort trépassée dans un champ. Ce fut le garde champêtre qui souleva la cagoule. Et dessous était bien une tête de mort. Du moins, c'est ce que raconte le baccan de l'endroit. Le village crut réellement avoir tué la mort. Le plus drôle, c'est que pendant 2 ans, le cimetière chôma. Personne ne mourut plus. Oh, si fait, le vieux, qui, en curant son pourreau, avait vu passer la mort et ne l'avait pas reconnue.